Madame, monsieur, bonjour et bienvenue en ce vendredi 26 janvier 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique à la une de l'actualité ce matin. La junte au pouvoir au Mali fait part de la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger. Fin de la tournée africaine du chef de la diplomatie américaine. En Angola, Anthony Blinken évoque l'importance de tenir des élections locales. Ailleurs, sur le continent, des milliers d'habitants et d'humanitaires pris au piège des combats dans l'est de la République démocratique du Congo. Libération de 6 religieuses enlevées en Haïti, pays victime d'une barbarie similaire aux zones de guerre, selon un membre du gouvernement. Nous démarrons avec la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se poursuit en Côte d'Ivoire. On connaît tous les 16 pays qualifiés pour les huitièmes de finale. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yacouba Ouedraogo pour le journal de la CAN.
Bonjour à tous, on fait le point de ces oppositions des huitièmes de finale avec Bagassi Koura.
Dès ce samedi 27 janvier, l'Angola affronte la Namibie au stade de la paix de Boaké. Juste après, à 20h, le Nigeria fait face au Cameroun dans un classique du football africain. Le dimanche 28 janvier, la surprenante Guinée équatoriale reçoit la Guinée au stade Alassane Ouattara. Et à 20h, l'Égypte fait face à la RD Congo. Lundi, pour le premier huitième de finale de son histoire à la CAN, la Mauritanie défie le Cap-Vert à 17h. Avant le gros choc ouest-africain attendu à 20h entre le champion en titre, le Sénégal et la ressuscitée Côte d'Ivoire. Les derniers matchs des huitièmes de finale ont lieu mardi. Le Mali fait face au Burkina Faso à 17h et le Maroc boucle ses huitièmes de finale contre l'Afrique du Sud.
Entre les équipes héroïnes de la Namibie et la Mauritanie, la ressuscitée Côte d'Ivoire et le Cameroun passés de justesse, cette CAN n'est pas avare en émotion. De nouveau, Bagassi Koura.
L'Algérie championne 2019, la Tunisie et le Ghana mondialiste éliminés dès le premier tour. Le Cameroun qui arrache son ticket au forceps et la Côte d'Ivoire qualifiée presque grâce au Maroc. Cette phase de poule de la CAN 2023 offre de fortes sensations. Un avis partagé par Jonas Fotio, journaliste camerounais.
Beaucoup de spectacles, des émotions incroyables, des hauts et des bas. Roulette russe carrément, c'est fou ce qu'on a pu vivre. Et moi, en tant que Camerounais, je vous parle pour l'expérience que je vis, c'est quelque chose d'inédit. Et donc, ça montre aussi que la Coupe d'Afrique des Nations est le plus gros événement, toutes catégories confondues sur le continent. Ça fait que tous les pays se préparent désormais.
Parmi les 16 pays qualifiés pour les huitièmes, deux découvrent ce stade de la compétition. Il s'agit de la Namibie et de la Mauritanie. Reçu dans l'émission Espace CAN de notre radio-télévision partenaire Albayan, Michel Boli, ancien joueur de football, estime qu'il y a un nivellement des équipes vers le haut.
Je dirais les équipes qui ont mérité d'être là, ils ont mérité sur le terrain. Il n'y a plus de petites nations du football aujourd'hui en Afrique. Toutes les nations se valent. Pourquoi? Parce que les joueurs jouent tous dans un championnat majeur en Europe.
Oui.
Donc automatiquement, les binationaux, les locaux font le jeu. Le football africain a évolué. Et ça donne vraiment une belle CAN.
Jonas Fotio, journaliste camerounais.
Et donc c'est pareil pour des pays comme la Namibie ou encore la Mauritanie qui arrivent et marquent un coup d'éclat, symbole de ce que dans les années à venir, non seulement c'est des nations qui vont davantage étonner, mais ça va aussi inspirer des vocations à d'autres nations qui pour l'instant ne se sont pas encore fait voir sur la scène de la Coupe d'Afrique des Nations.
Cette CAN 2023 n'a certainement pas fini de dérouler son lot de surprises et les prochains jours annoncent sans doute encore des émotions à vivre. Bagassi Koura, Abidjan pour VOA Afrique.
Après cette phase de groupe, les habits de la CAF ont tenu à montrer leur univers aux journalistes de presse. Ils ont organisé une séance d'entraînement ici à Abidjan au cours de laquelle toutes les facettes de leur profession ont été présentées.
Pour nous, ça se passe bien. On a vu que la VAR a pris des décisions très précises et très justes dans différentes situations. Okay. Donc pour le moment, ça va. On continue à rechercher l'uniformité entre les arbitres qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans la VAR. On continue à pouvoir s'améliorer sur le temps des checks et sur aussi la précision des checks. Donc c'est pour ça qu'on continue de travailler. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, vu que nous n'avons pas trop de complaintes, on considère que les choses se passent plutôt bien.
Alors, quels sont les éléments, les données techniques aujourd'hui qu'on peut aborder après cette émission?
Ben écoutez, je pense que au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'approche tactique, nos arbitres ont très bien travaillé. Ok, techniquement, comment lire le jeu, comment anticiper, comment contrôler la surface de réparation qui est le plus important. Parce que tout ça, nous vérifions ça. Comment anticiper? Ok, techniquement, nos arbitres ont très bien travaillé. Sur l'évaluation des fautes, on peut encore s'améliorer. Au niveau des VAR, on peut encore travailler sur la durée des checks.
Noumandié Désiré Doué, chef de l'arbitrage et de la technologie du football à la CAF, au micro d'Ange Bijou Nomeyo, notre correspondant ici à Abidjan. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
Je vous le disais en titre, le Mali annonce la fin avec effet immédiat de l'important accord d'Alger paraphé il y a 9 ans avec les groupes indépendantistes à dominante Touareg du Nord, un pacte longtemps considéré comme essentiel pour stabiliser le pays. Le point avec Nani Talani.
La junte malienne invoque le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation, selon un communiqué lu hier à la télévision d'État par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Bamako constate l'inapplicabilité absolue de l'accord d'Alger et, par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat, ajoute le communiqué. Tous les canaux de négociation sont désormais fermés, a réagi Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole du cadre stratégique permanent, alliance de groupes armés qui avait signé l'accord de 2015 avant de reprendre les armes l'an dernier. Nous n'avons pas d'autre choix que de livrer cette guerre qui nous est imposée par cette junte illégitime avec qui le dialogue est impossible, dit-il. Le colonel Maïga a lu un autre communiqué vigoureux spécifiquement contre l'Algérie. Le gouvernement constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités algériennes, affirme-t-il. Il dénonce, je cite, « une perception erronée des autorités algériennes » qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Fin de citation.
Le Niger dit déplorer ce qu'il appelle la mauvaise foi du bloc ouest africain de la CEDEAO après l'échec d'une mission de négociation attendue à Niamey, à laquelle seul le Togo a répondu présent. Alexandrine Rolognon nous en dit plus.
Aujourd'hui, en dehors du Togo qui a accepté de faire le déplacement, la CEDEAO n'est malheureusement pas arrivée, a regretté Ali Mohamed Lamine Zeine lors d'une conférence de presse à Niamey, aux côtés du ministre des Affaires étrangères togolais Robert Doucet. Il y a une mauvaise foi de cette organisation et probablement des pays qui sont derrière, a ajouté le ministre, tandis que M. Doucet n'a pas pris la parole. En décembre, le ministre togolais des Affaires étrangères avait fait une première visite pour évoquer le contenu et la durée d'une transition au Niger, gouvernée par un régime militaire depuis un coup d'État fin juillet. Il devait revenir, notamment avec son homologue de la Sierra Leone, Timothy Kaba, au nom de la CEDEAO. Depuis le coup d'État du 26 juillet, le Niger est frappé par de lourdes sanctions économiques de la CEDEAO, qui a fait de la libération du président déchu Mohamed Bazoum une condition pour les alléger. Son fils Salem Bazoum, qui était retenu prisonnier avec ses parents depuis le putsch, a été libéré le 8 janvier et se trouve au Togo, qui joue un rôle actif de médiateur avec le régime militaire.
En Angola hier, le secrétaire d'État américain a eu pour objectif de soigner les relations avec ce pays riche en pétrole. Anthony Blinken a notamment évoqué un ambitieux projet d'infrastructure et des discussions sur la médiation de conflits lors de la dernière étape d'une semaine de tournée africaine. Davantage avec Mohamedou Mfa.
Dans la capitale Luanda, le secrétaire d'État a visité le chantier du couloir Lobito, plus ambitieux projet américain d'infrastructure sur le continent. Ce couloir vise à relier l'Angola, la Zambie et la RDC. Les États-Unis se sont engagés à financer 1300 km de voies ferrées pour étendre le projet jusqu'à la Tanzanie et relier l'Atlantique à l'océan Indien. Cette voie permettra le transport de ressources naturelles comme le cuivre et le cobalt, composants essentiels des smartphones. Monsieur Blinken s'est aussi rendu au Musée des sciences de Luanda, où il a fait la promotion d'une autre initiative visant à fournir aux pays en développement des semences résistantes, dont certaines génétiquement modifiées. Mercredi, M. Blinken s'est entretenu longuement avec le président angolais João Lourenço et il a souligné l'importance d'organiser des élections locales inexistantes en Angola et réclamées par l'opposition. Il a par ailleurs présenté le président angolais comme un médiateur essentiel dans les efforts pour faire avancer la paix dans l'est de la RDC. M. Blinken a appelé à davantage d'efforts diplomatiques pour pacifier cette région.
En République démocratique du Congo, des milliers d'habitants et de travailleurs médicaux et humanitaires sont pris au piège des combats qui opposent l'armée congolaise et ses supplétifs aux rebelles du M23 à Mueso dans la région orientale. Les détails avec Dili Diko.
Au moins 13 civils, dont des enfants, ont été tués jeudi par des tirs d'artillerie, selon des habitants de la ville de Mueso, au nord de Goma. Des témoins ont indiqué avoir vu les bombes tomber sur des zones sous contrôle des forces armées, et ces dernières ont bombardé Mueso lundi, alors sous contrôle du M23. L'armée a de son côté accusé, je cite, « les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise d'avoir largué à l'aveuglette des bombes sur la ville, entraînant la mort de 19 personnes et faisant 17 blessés ». Des photos et des vidéos prises jeudi par des témoins, mais difficiles à vérifier, montrent des corps démembrés dans des débris de maisons. Médecins sans frontières, qui travaille à l'hôpital de Mueso, a indiqué que d'intenses combats ont eu lieu autour de l'hôpital. Les casques bleus de la MONUSCO ont déclaré que la situation est entravée dans la zone. Jeudi soir, les combats ont continué avec de nombreuses détonations qui ont résonné dans la ville de Mueso.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Haïti, 6 religieuses et 2 autres personnes enlevées vendredi dernier à Port-au-Prince ont été relâchées, indique l'archevêché de la capitale, où les rapts se multiplient ces dernières semaines. Un chauffeur et une jeune fille qui les accompagnaient avaient été kidnappés en même temps. Le pape François avait appelé à leur libération et dit prier pour l'harmonie sociale dans le pays. L'archevêché n'a pas dit si une rançon avait été versée. Justement, le ministre haïtien des Affaires étrangères a tiré la sonnette d'alarme devant le Conseil de sécurité de l'ONU hier. Pour Jean-Victor Généus, les habitants de son pays n'en peuvent plus face à la barbarie des gangs armés, similaires, dit-il, à ce que vivent des zones de guerre. Les précisions avec Nathalie Barge.
Au regard des statistiques concernant les atrocités subies par la population haïtienne de la part des bandes armées, il n'existe aucune différence entre les bestialités que nous vivons et celles qui émeuvent le monde face aux horreurs et barbaries de guerre et conflits armés d'ailleurs, a déploré Jean-Victor Généus. Selon le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, consterné par le niveau stupéfiant de la violence des gangs, le nombre d'homicides a plus que doublé en 2023 par rapport à 2022, avec près de 5000 morts, dont plus de 2700 civils. Le ministre a rappelé que cela fait près de 2 ans qu'il présente un tableau sombre de la situation sécuritaire de son pays devant le Conseil de sécurité. Il a souligné espérer que ce soit la dernière fois avant le déploiement sur le terrain d'une force multinationale d'appui à la sécurité. Face aux demandes répétées du gouvernement haïtien et d'Antonio Guterres, le Conseil de sécurité a finalement donné son accord en octobre pour l'envoi d'une mission multinationale menée par le Kenya afin d'aider la police haïtienne dépassée par les gangs. Le Parlement kényan a approuvé en novembre le déploiement de 1000 policiers, mais la mission reste suspendue à une décision de la Haute Cour de Nairobi attendue ce vendredi.
L'État américain d'Alabama a exécuté hier un condamné à mort par inhalation d'azote, une première mondiale critiquée par l'ONU qui a comparé ce mode d'exécution à une forme de torture. Kenneth Eugene Smith, définitivement condamné en 1996 à la peine capitale pour le meurtre d'une femme commanditée par son mari, est décédé au pénitencier d'Atmore à 20h25 local, 2h25 GMT vendredi. La plus haute juridiction de l'ONU rend une première décision aujourd'hui sur des mesures urgentes réclamées par l'Afrique du Sud contre Israël, qu'elle accuse de génocide à Gaza, un verdict qui sera suivi de près dans le monde entier.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions il y a quelques minutes, le patron de la diplomatie américaine a bouclé hier en Angola son périple de 4 jours en Afrique après des étapes au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Il s'agissait pour Anthony Blinken de rappeler l'intérêt des États-Unis pour le continent africain où la Chine et la Russie gagne du terrain, et tandis que Washington a l'œil rivé sur le conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Pour une réaction, Idriss Afal a joint à Luanda l'opposant Abel Chivukuvu, chef du parti Praja Servir Angola.
Nous avons, en tant que membres de l'opposition et de la société civile, envoyé une lettre à M. Blinken, considérant que c'est très bien la visite ici en Angola, mais nous demandons que dans ces discussions avec le président et le gouvernement angolais, il renforce la nécessité que le processus démocratique en Angola ne recule pas comme il est en train de succéder. Aussi, qu'il y a une préoccupation avec des problèmes des abus des droits humains, avec des problèmes des élections locales qu'on a depuis longtemps espéré qu'ils ne se produisent pas. C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec la visite et nous félicitons. Mais de toute façon, nous pensons que, étant les États-Unis un pays démocratique, doit encourager les autorités angolaises à suivre le schéma de la démocratie, de respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, et surtout qu'on aille des élections locales en Angola avant les élections générales de 2027.
La Chine a accaparé une bonne partie de l'économie, a construit toutes les routes. Est-ce que vous pensez que les Américains n'arrivent pas un peu tard pour bousculer la Chine en Angola?
La Chine a été un facteur pendant le début du processus de reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, la Chine est un peu discréditée à cause de la qualité des processus, des infrastructures qu'ils ont montées. Tout est en mauvais état. C'est-à-dire qu'il y a un certain discrédit. Et surtout parce qu'aujourd'hui aussi, la grande partie de notre budget national annuel, 60%, va pour le paiement de dette à la Chine. C'est-à-dire, le climat envers la Chine n'est plus positif. Et les États-Unis ont l'opportunité, s'ils veulent, de bâtir une relation de haut niveau. Le plus important, c'est qu'ils sachent. Ce n'est pas seulement les affaires, ce n'est pas seulement le gouvernement, ce sont aussi les principes de la démocratie, des droits des hommes, le bonne gouvernance, et surtout savoir écouter la voix de la société civile angolaise.
Le MPLA était plutôt l'ennemi des États-Unis, et aujourd'hui on a vu João Lourenço était encore il y a 2 mois ici même aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé dans la relation?
Dans les relations des États, il n'y a pas des ennemis permanents, il n'y a pas des amis permanents, il y a des intérêts. Maintenant, il y a les intérêts des États-Unis du point de vue géostratégique dans notre région australe, mais il y a aussi l'intérêt de l'Angola de pouvoir avoir la relation avec la majeure puissance du monde. C'est assez normal. Le plus important, c'est que les États-Unis n'oublient pas ces principes pour la démocratie et pour les droits de l'homme. C'est ça le plus important pour nous. Les affaires, on peut faire, ça termine. Mais les valeurs et la nature du processus démocratique, ça perdure.
L'opposant angolais Abel Chivukuvu, leader du parti Praja Servir Angola.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Tchad, un allié de la France, est un pays frère de la Russie. Propos de Mahamat Idriss Déby Itno, le président tchadien de la transition, au moment où il était reçu avant-hier dans la capitale russe par le maître du Kremlin. Vladimir Poutine lui a promis en retour que Moscou pourrait aider N'Djamena à stabiliser la situation dans le pays. Que pensent les Tchadiens de ce voyage du général Déby en Russie? Réaction dans ce micro-trottoir réalisé par André Koumadjingar, notre correspondant dans la capitale tchadienne.
Cette visite est beaucoup plus d'intérêt stratégique parce que avec les élections futures qui se pointent, Mamad Kaka, déjà désigné comme candidat du MPS, est à la recherche des alliés. Et comme la communauté internationale l'interdit déjà de se présenter, il est parti en Russie, tout en sachant que la Russie est à couteau tiré avec l'OTAN. Il cherche des alliés parce que quand la communauté internationale vouloir imposer des embargos, à ce moment, la Russie va répondre favorablement pour soutenir Mamad Kaka. Et d'autres intérêts stratégiques est le fait que la population tchadienne, qui déjà considère la France comme la source de ses problèmes, cherche maintenant à tisser des relations avec la Russie pour chercher à chasser la France du Tchad. Et la Russie profite de cette faiblesse ou de ses intentions du peuple tchadien pour se positionner, notamment avec l'augmentation du quota des étudiants tchadiens en Russie. Donc je pense que ce déplacement est beaucoup plus d'intérêt stratégique et vise beaucoup plus à sécuriser la position du président de la transition.
C'est vraiment un grand plaisir pour moi de voir mon président aller vers un leader qui a déjà, n'est-ce pas, compris le système dans lequel vit l'Afrique. Alors, imaginez même en regardant leur image, mon président et le président de la République du Tchad dégagent déjà de l'énergie. Et moi, je suis fier. S'ils peuvent échanger sur la question sécuritaire, et sur la question en termes de développement, et ça va beaucoup plus m'intéresser. Avec un partenaire idéal, c'est ce que nous les Africains et notamment nous les peuples tchadiens on attend. Si le président de la transition veut gagner la confiance de la population tchadienne, il n'a qu'à changer un peu le système pour mettre en confiance, n'est-ce pas, le peuple tchadien.
C'est hautement politique pour la France et pour la Russie et surtout pour le régime de N'Djamena. Il y a le côté sécuritaire. La Russie est en Centrafrique, en Libye, au Niger. Et au Soudan, le Tchad est entouré et a des rébellions à l'extrême nord et des rébellions naissantes au sud avec la Centrafrique. Faustin Théogra qui craint sa déstabilisation à partir du Tchad. Mamad Idriss Déby prend le devant pour montrer patte blanche à Poutine pour qu'il ne puisse pas l'unir.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Bénin, la question de la révision de la Constitution tient une place de choix dans les discussions tant au plan politique que dans la rue. Des partis d'opposition accusent Patrice Talon, le chef de l'État, d'avoir enclenché en sourdine le processus en vue d'une modification taillée sur mesure de la loi fondamentale du pays. Qu'en est-il réellement de Cotonou? Le reportage de notre correspondante Ginette Fleur Adondé.
Retouchée en 2019, la constitution béninoise pourrait subir une nouvelle modification selon certains partis politiques. Ils y voient une volonté à peine voilée de Patrice Talon à rester davantage au pouvoir. La question sur la révision de la constitution a été évoquée par le président de l'Assemblée nationale lors d'une réunion des présidents des institutions de la République. Le parti Les Démocrates, à travers son secrétaire national de la communication, dit non à toute intrusion, quelles que soient les raisons.
C'est un non catégorique à la révision opportuniste de notre constitution qui ouvrirait la voie à un troisième mandat. Le parti Les Démocrates ne trahira jamais le peuple béninois. Il ne participera à aucune manœuvre de révision constitutionnelle qui ferait le lit à un troisième mandat ou à un troisième mandat déguisé.
Sur la liste des contestataires, il y a également les partis politiques, la Nouvelle Force Nationale et la Grande Solidarité Républicaine. Selon Apollinaire Avoignon, la révision de la Constitution n'est pas une urgence. Il y a tant à faire si le chef de l'État est préoccupé par le bien-être du peuple, a-t-il souligné.
Nous disons tous non à la révision opportuniste de la Constitution. Nous disons non au troisième mandat. Nous disons non à un démantèlement des fondamentaux de notre République. Les Béninois n'ont pas besoin d'une révision de constitution avant 2026. Par contre, les Béninois attendent des actions susceptibles de favoriser l'ouverture des frontières bénino-nigériennes, la gouvernance apaisée, sans armes à feu contre les populations déjà meurtries. Les Béninois espèrent la libération des prisonniers politiques politique et l'arrêt des poursuites politiques et le retour des exilés.
Mais pour l'acteur politique Bertin Corvin, la constitution béninoise comporte des injustices qu'il est nécessaire de corriger. Pour lui, le retour à l'étage devient une nécessité. Il explique.
J'ai toujours estimé que c'est injuste, ce n'est pas démocratique, que de jeter à la poubelle tout Béninois qui a son en 10 ans révolu. C'est pas normal, ça, c'est pas une démocratie, ça.
Sur la question, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Oulo, appelle à faire preuve de discernement et à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation.
La Constitution a prévu les choses auxquelles on ne peut pas toucher, à moins d'avoir une nouvelle Constitution. D'abord, dans le texte même de la Constitution, il est dit qu'on ne peut pas toucher ni à la forme républicaine, ni à la laïcité de l'État. La Cour constitutionnelle, dans sa décision de 2010, a ajouté qu'il faut respecter la limitation à 2 du nombre de mandats et qu'il faut respecter la limite d'âge de 40 ans minimum, soit 10 ans maximum pour être candidat à l'élection présidentielle.
Face aux accusations d'une révision opportuniste, le porte-parole du gouvernement a tenu à apaiser. Selon Wilfred Léandre Rombedi, Patrice Talon s'en ira en 2026.
La certitude que nous avons aujourd'hui, toutes choses restant égales par ailleurs, c'est que Patrice Talon, en 2026, il a fini. Et il a réitéré il n'y a pas longtemps. C'est 2 mandats au Bénin. On a fait une révision de la Constitution en 2019. Et contrairement à ce que nous avons souvent observé en Afrique, dans cette constitution révisée, le président Patrice Talon a fait mettre que nul ne peut de sa vie effectuer plus de 2 mandats présidentiels. Qu'ils soient consécutifs ou non, vous avez droit à 2 mandats, pas plus.
Il faut dire que dans le souci de décrispation de la situation sociopolitique, le chef de l'État a entamé des rencontres avec les groupes parlementaires. Au menu des échanges, la relecture du code électoral afin de corriger tout ce qui pourrait empêcher des élections inclusive en 2026. De Cotonou, Ginette Loa, dans les pour VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Ici, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump, probable candidat républicain au scrutin présidentiel de novembre prochain, menace de torpiller un accord qui libérerait 106 milliards de dollars de dépenses d'aide pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, et qui renforcerait également les règles d'immigration sur lesquelles l'exécutif américain et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois. Patsy Vidakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, a réalisé ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Soutenu par des électeurs qui considèrent l'immigration comme la question la plus importante dans la campagne de 2024, l'ancien président Donald Trump a remporté la primaire du New Hampshire et est favori en Caroline du Sud.
Nous avons des millions de personnes qui entrent illégalement dans notre pays. Ils viennent de prisons et d'institutions psychiatriques.
Ces 2 premières victoires dans l'Iowa et le New Hampshire devraient inciter Donald Trump à faire pression sur les législateurs républicains pour qu'ils évitent tout compromis sur l'immigration. La semaine dernière, il a déclaré sur les réseaux sociaux que les républicains ne doivent pas accepter un accord sur les frontières s'ils n'obtiennent pas tout ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce qu'il appelle une évasion de plusieurs millions de personnes. La Maison-Blanche et les sénateurs des deux partis ont travaillé pendant des mois pour trouver un accord qui fournirait 106 milliards de dollars d'aide à la sécurité pour l'Ukraine, Israël et Taïwan. Les républicains insistent pour y inclure des fonds pour sécuriser la frontière sud et renforcer les règles d'immigration. La semaine dernière, le président Joe Biden a émis le vœu que cet accord soit adopté au moins par le Sénat.
La question qui se pose maintenant est celle du président de la Chambre de représentants et des républicains de la Chambre. Sont-ils prêts à agir, eux aussi?
Les militants pro-immigration sont pessimistes. Lia Parada, responsable de la défense des droits de l'homme au sein du groupe The Immigration Hub, jointe via Skype.
Les républicains du Congrès ne sont pas prêts à mettre sur la table des politiques de bonne foi qui mettent en place un traitement humain et ordonné à la frontière et qui conservent l'asile. Au lieu de cela, nous voyons les républicains d'extrême droite dominer le débat, y compris l'ancien président Trump.
La question de la frontière enflamme la base républicaine et l'adoption d'un projet de loi que les démocrates pourraient considérer comme une victoire pourrait nuire à la communication des républicains en cette année électorale. Norman Ornstein, membre émérite de l'American Enterprise Institute, joint via Skype.
Ils ne veulent rien faire qui puisse profiter à Joe Biden et retirer cette question de la frontière des thèmes de campagne en 2024.
Alors que les guerres à Gaza et en Ukraine continuent de faire rage, la politique étrangère est devenue une préoccupation majeure des Américains cette année. Selon un sondage AP Nock Center, 60% des Américains estiment que la politique étrangère devrait être une priorité pour 2024, contre 41% l'année dernière. 35% des personnes interrogées citent l'immigration comme leur principale préoccupation, soit une augmentation de 27%.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore Le Monde aujourd'hui, édition matinale du vendredi 26 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyawida. Merci, chers amis fidèles de la VO.